Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com en ce vendredi 23 avril. Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine, comment ça va?
Très bien, très bien. Écoute, c'est pas reposant les voyages dans l'ouest du Canadien. Il faut comprendre pour le bénéfice de nos auditeurs que quand on couvre des matchs du Canadien dans l'ouest, on est sur place. Alors, les matchs commencent quand même à 19h ou à 19h30 quand on est là-bas. Alors, de pouvoir rester à la maison à Montréal et de couvrir des matchs en restant à Montréal, c'est une autre paire de manches quand le match commence à 22h, dis-je. Ça nous mène tard, mais c'est correct. Ça fait partie de la situation actuelle. On va s'en mettre.
Ouais. Ça change rien pour nos auditeurs qui sont tout le temps obligés de rester debout jusqu'à 1h du matin pour regarder le match du Canadien. Mais nous aussi, mercredi soir, on s'est couché vers 4h, nous deux, puis c'est ça. C'est beau. On se plaint pas. Parce que, en fait, ça valait la peine le dernier match. Canadien a joué un match à leur image, je dirais. C'est un match qui a démontré un peu l'idéal de ce que le Canadien pourrait être. Et ouais. Alors, c'était encourageant d'une certaine façon de les voir jouer en utilisant leurs forces de leur meilleure façon. Je pense que ce serait une bonne façon de le dire contre Edmonton mercredi. Et d'arrêter non seulement une séquence de défaites ou une série de matchs où il y avait beaucoup de défaites, mais vraiment démontrer un style de jeu, un engagement, un niveau d'engagement et un certain niveau de jeu physique qui devrait leur aider s'ils continuent dans ce veine-là. Évidemment, l'idée du constance a été un peu difficile avec le Canadien cette saison. C'est le moindre des choses qu'on peut dire d'eux. Alors, on verra si ça tient. Mais on verra ça dès ce soir. Mais avec 3 matchs en 4 soirs contre les Flames de Calgary, l'équipe qui est directement derrière eux dans le classement, on verra bien si le match de mercredi est le début de quelque chose où le Canadien est capable de continuer de jouer de cette façon ou si c'était juste un match... Un match qui était particulièrement bon dans une série de matchs qui était un peu moins bon.
Oui, absolument. Je trouve que cette partie-là contre les Oilers d'Edmonton, c'est comme si ça avait établi un blueprint, là, une marche à suivre pour le Canadien. Dire bon, ben, vous avez été très bon au début de saison, vous avez marqué plein de buts, puis tout ça, puis tout était beau, puis tout le monde dans la ligue dit le Canadien va être à surveiller cette année, mais la façon dont les buts se marquent et dont les matchs se jouent en fin de saison, c'est une toute autre histoire. Et je pense que le Canadien ferait erreur de s'en remettre à sa performance de début de saison, puis de dire il faut qu'on retourne à ce qu'on faisait en début d'année. Et plus regarder comment il a joué contre les Oilers, puis se dire si on peut recréer ça, si on peut mettre ça dans une bouteille pour faire un anglicisme, je pense que c'est beaucoup plus porteur pour le Canadien d'ici la fin de la saison. Et écoute, tu évoques le Calgary. On va faire dans l'épisode d'aujourd'hui un espèce de petit preview là, de la série de 3 matchs qui s'en vient contre les Flames. On va discuter aussi de l'acquisition d'Eric Gustafsson. Un joueur qu'on ne verra pas beaucoup dans l'alignement, mais qui néanmoins, son acquisition pourrait causer un certain nombre de soucis ou de maux de tête aux Canadiens, beaucoup plus que de bénéfices potentiels que ça pourrait lui rapporter. Donc, on va regarder ça un petit peu. Puis aussi, ce qu'on a remarqué par rapport à la performance du Canadien depuis l'arrivée en poste de Dominique Ducharme, le manque de constance de cette équipe-là, ça a fait en sorte qu'il y a plusieurs fans qui semble-t-il, ont l'air d'avoir déchanté à propos de Dominique Ducharme. On va regarder un petit peu jusqu'à quel point ces critiques-là sont méritées ou non. Comme d'habitude, il va y avoir notre minute du patrimoine qui va faire un survol des équipes canadiennes. Et puis, je vous rappelle également que vous pouvez nous soumettre vos questions sur notre boîte vocale. On fait jouer vos questions. On choisit une question parmi celles qu'on a reçues et on la diffuse sur notre épisode, et puis on y répond. Donc, une semaine en anglais, une semaine en français, comme c'est l'habitude avec le Super Athlétique. Donc, si ça vous intéresse de contribuer, de soumettre votre question, vous pouvez le faire en appelant le 424 703-38-59-424. 703-38-59. Harpin. Les Flames de Calgary, le Canadien est en visite pour 3 matchs, a été la bête noire du tricolore depuis le début de la saison. Est-ce que le style de jeu hermétique qu'on voit les Flames pratiquer depuis le retour de Daryl Sutter derrière le banc n'est pas en quelque sorte un exercice en vue des séries éliminatoires dont le Canadien devrait, dans le fond, tirer le meilleur parti?
Ben oui et non, dans le sens où c'est 2 des 3 autres équipes qui devraient faire les séries ne jouent pas comme ça. Je parle en parlant de Toronto et Edmonton. Winnipeg joue un peu de cette façon-là, mais évidemment ont beaucoup, beaucoup plus d'habilité dans leur groupe de top 6 attaquants. Alors, mais c'est vrai que les équipes comme Calgary et Ottawa en particulier, qui misent sur l'effort soutenu, un bon échec avant, dump it in et faire l'échec avant, puis jouer un game, un match qui est plus... plus axé sur les batailles le long des rampes, des choses de même, ça a donné de la misère aux Canadiens cette saison, ces deux équipes-là. Une chance pour eux que les deux, en principe, ne devraient pas faire les séries, mais dans le cas des Flames, évidemment, ça joue toute leur saison, ça joue cette fin de semaine-là, rendu à lundi, évidemment. Il faut absolument que les Flames gagnent au moins 2 sur 3, sinon chacun des 3 matchs pour leur donner une chance. Et c'est une opportunité pour le Canadien d'effectivement d'éliminer quasiment, pas techniquement, mais quasiment éliminer les Flames de Calgary de la course en remportant 2 sur 3, je pense que ça devrait faire la job. Mais c'est vrai que, tu sais, comme on vient de le dire, le Canadien doit jouer d'une certaine façon en séries éliminatoires, puis les Flames représentent peut-être l'extrême de cette façon de jouer, mais c'est quand même un style de jeu où le Canadien devrait s'améliorer parce que ça ressemble beaucoup plus au style qu'on verra en séries éliminatoires. Même si les Oilers et les Maple Leafs ne jouent pas de cette façon-là, les Canadiens devraient en jouer un peu plus de cette façon-là, comme ils ont fait contre Edmonton mercredi, pour avoir du succès. Alors, ça suit que les Flames représentent un défi de cette façon-là parce qu'en jouant de cette façon-là, ils ont eu le meilleur des Canadiens depuis l'arrivée de Daryl Sutter, qui était, dès son premier match à Calgary, qui était contre Montréal, qui était dans des circonstances quand même assez particulières avec le Canadien qui a joué à Vancouver moins de 24 heures plus tôt. Mais quand même, ça leur a donné beaucoup de misère dans les matchs qu'ils ont joués à date.
Oui, absolument. Là, pour rappeler aux gens un petit peu la situation au classement, les Flames ont joué un match de plus que le Canadien. Ils sont 8 points en retard. C'est un trou énorme à combler. Surtout qu'il leur reste, 17 matchs à jouer. Ça va quand même aller vite. Il va falloir qu'ils soient sur une lancée de tous les diables et qu'en même temps, le Canadien trébuche puis soit incapable de se donner des séries de victoires. C'est sûr que depuis l'arrivée en poste de Dominique Ducharme, on est beaucoup dans un système, on en gagne un, on en perd un. Alors, faudrait que ce soit encore plus axé sur la défaite du côté du Canadien pour que les Flames se donnent une chance. Mais comme tu as dit, je pense qu'il faut que le Canadien, pour que les Flames aient la possibilité là, de rester dans le match. En fait, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il restait... Il reste beaucoup moins de matchs que ça aux Flames. Désolé, là. Il leur reste 11 matchs. Ouais. C'est ça. Il leur reste 11 matchs à jouer. Il en reste 12 aux Canadiens. Mais il faut que le Canadien, il faudrait vraiment qu'il s'en fâche pour que ce soit pour leur laisser une chance. Est-ce que les Canucks de Vancouver, qui eux ont été, évidemment, ils ont été absents, ils ont été tenus hors de la compétition pendant plus de 3 semaines à cause de la COVID-19, qui ont eu un retour à la compétition absolument retentissant. Ça a été probablement la plus belle histoire de la saison dans la Ligue nationale, cette victoire face aux Maple Leafs de Toronto avec un Braden Holtby qui a sa forme des beaux jours et qui vole carrément le match aux Maple Leafs. Est-ce que tu penses que les Canucks, qui eux ont joué 4 matchs de moins que le Canadien, qui ont 10 points de retard, représentent une plus grosse menace que les Flames si on se demande si la position en vue des séries éliminatoires du Canadien est compromise? Est-ce que les Canucks sont pas une plus grosse menace?
Ben, je pense pas parce que, tu sais, on en a parlé beaucoup sur l'effet que la semaine de congé due au COVID que le Canadien a eu, puis tout ce qui est arrivé avec leur calendrier. Tu sais, ils terminent la saison avec une douzaine de matchs en 20 jours, si je ne me trompe pas. Si on regarde les Canucks, c'est pire que ça. T'sais, honnêtement, c'est les autres qui jouent leurs 12 derniers matchs dans l'espace de 18 jours. Si je ne me trompe pas, au mois de mai. Alors, oui, c'est vrai qu'ils ont des matchs en main. Leurs trois prochains matchs sont contre les Sénateurs, puis je pense que Vancouver joue quand même assez bien contre les Sénateurs, comme en fait le reste, à part Montréal et Toronto, toute la division joue très bien contre Ottawa. Ouais. Alors, ils ont trois matchs de suite qui s'en viennent avec Ottawa. Il y a une couple de matchs contre Toronto, puis après ça, quatre contre les Oilers, deux contre les Jets, un contre Calgary, un contre Edmonton, puis trois contre Calgary. Alors, puis tout ça se passe dans une période de temps qui est très restreinte. Et vraiment, j'ai de la misère à croire qu'ils seront capables de se mettre sur une séquence de victoires qui doit être quand même assez impressionnante pendant cette période-là. Jouer à ce rythme-là, ça va être difficile. T'sais, en mois, mm-hmm. Entre le 1er mai et le 19 mai, il y a 12 matchs. Puis, 6 jours, il n'y a pas de match. Alors, c'est comme... Il y a quand même... Tu sais, et juste pour dire, là, c'est vraiment... Je comprends la situation. Je comprends que, tu sais, la Ligue nationale veut absolument que chaque équipe joue leurs 56 matchs, que l'intégrité de la saison est importante, mais... oh non, je m'excuse, ils ont 7 jours sans match dans ces 19 jours, mais quand même, c'est pas normal qu'une équipe de hockey doit jouer à ce rythme-là. Et alors moi, je vois mal comment les Canucks vont le faire, mais si je vois mal comment les Canucks vont le faire, on devrait demander la même question du Canadien aussi. Moi aussi, je vois mal comment ils vont le faire aussi. Alors, il y a une possibilité que le Canadien se met à perdre. Parce que ça fait déjà quelques semaines qu'ils jouent à ce rythme-là. Alors, c'est très possible que les Canadiens, à un moment donné, vont frapper un mur, puis ils vont se mettre à perdre quand même assez régulièrement, plus régulièrement qu'on a vu dernièrement. Mais les Canucks, il va falloir qu'ils alignent beaucoup, beaucoup de victoires dans une situation très semblable aux Canadiens. Et je vois mal comment ils vont le faire. Là. Honnêtement, ça va être difficile. Il y a beaucoup de rattrapage à faire. C'est bien beau avoir des matchs en main, mais il faut remporter ces matchs en main pour que ça signifie quelque chose. Alors, ça va prendre une série de victoires quand même assez historiques ou au moins improbables des Canucks. Puis, ça va prendre une série de défaites, un effondrement pas mal total du Canadien pour que ça devienne un enjeu pour eux.
Mais justement, tu parles du Canadien, le fait que lui aussi a un calendrier très chargé d'ici la fin de la saison. Et on a évoqué tout à l'heure le fait que le Canadien avait joué contre les Oilers Edmonton, le genre de match qu'il doit jouer. Un match qui est un style de jeu qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus impliqué au plan de la robustesse, mais aussi au plan de l'engagement là, tout azimut, là, que ce soit les batailles le long des bandes, que ce soit la volonté d'aller, de foncer au filet pour faire dévier des lancers, générer des retours de lancers, créer des écrans, etc., etc. Sauf que de pratiquer ce style de jeu-là, soir après soir, c'est encore plus éreintant. Alors, dans un contexte où tu joues une quantité de matchs, est-ce que c'est réaliste de penser que le Canadien peut prendre cet idéal-là et dire, bon, ben cette façon-là là, de jouer, ça va être la nôtre d'ici la fin de la saison et on va la recréer avec suffisamment de régularité qu'au moment où on va entreprendre les séries éliminatoires, qu'on affronte les Maple Leafs ou un autre adversaire, on va avoir été suffisamment rodé et conditionné dans cette façon de jouer-là que finalement, ça va être devenu une seconde nature pour nous puis on va être capable de l'appliquer face aux Maple Leafs puis ça va bien aller. Il me semble que c'est une grosse commande compte tenu de l'effort physique que ça va leur demander.
Ouais, je suis d'accord. Puis c'est pas vrai que. Tu sais, c'est bien beau pour Josh Anderson sortir avant le match de mercredi, dire nous, on doit commencer à jouer du hockey de série dès maintenant. c'est beau en théorie, mais il y a une certaine capacité pour ces joueurs-là de jouer ce style-là, de jouer à cette intensité-là. C'est ça qui rend les séries intéressantes, c'est parce que, particulièrement la première ronde, parce que les joueurs, d'habitude, ils gardent une petite réserve de quelque chose pour qu'ils puissent augmenter le niveau d'intensité rendu en série d'une coche pour qu'il reste un peu d'espace pour cette augmentation-là. Si tu te rends à pleine intensité dès maintenant, avec le Canadien, ce qui s'en vient, et s'il te reste plus d'espace pour augmenter le rythme, le niveau de jeu physique, le niveau d'intensité, le niveau de compétition, tout ça, rendu en série, premièrement, les gars vont être pas mal amochés en termes d'énergie, sinon des blessures. Et deuxièmement, ça va être difficile. Il va y avoir une limite à quel point le Canadien peut jouer à ce rythme-là en série s'ils le font dès maintenant. Alors, je pense que c'est pour ça un peu que cette série de matchs contre Calgary est importante. Si le Canadien est capable de remporter les trois matchs ou deux sur trois, ça va rendre le reste des matchs un peu moins important dans le sens où, là, rendu là, Calgary ne serait pas vraiment un facteur. Comme on en a parlé, Vancouver est déjà pas vraiment un facteur, mais il sera encore moins un facteur si le Canadien est capable de faire ça. Puis là, le Canadien pourrait, en gardant un certain style, un certain rythme, serait en mesure de commencer à reposer des gars, à donner des breaks à certains gars. Tu sais, Corey Perry pourrait sauter son tour une fois. Eric Staal pourrait sauter son tour une fois, mais ça évidemment, ça dépend de comment les Canadiens vont gérer leur alignement dans les prochains jours. On sait très bien qu'il y a une certaine restriction à ce niveau-là, mais ils ont des gars en défense, mais particulièrement en attaque, que je pense mériteraient ou profiteraient d'un certain repos de temps en temps pendant les 2-3 dernières semaines de la saison.
Sauf qu'en faisant ça, par exemple, c'est un petit peu comme déclarer forfait par rapport à l'objectif ou à une ambition de rattraper les Oilers ou les Jets au classement.
Je pense pas que s'asseoir Eric Staal pour un match se déclare forfait sur le match. Là. On s'entend que...
Non, je comprends, sauf que c'est tout... Ouais. C'est une question davantage d'attitude de dire, ben là, si la pression derrière nous est relâchée, on peut se permettre de reposer des gars. Peu importe qui tu décides de reposer, je trouve que c'est juste une question d'approche et d'attitude. Écoute, tu décides de laisser Staal de côté pendant un match, tu décides de laisser de fouetter Jonathan Drouin en laissant de côté une soirée ou quoi que ce soit, ou de faire des changements en défense. Je pense que de toute manière, peu importe le moment de l'année, le Canadien gagnerait. Cela étant dit, encore faut-il qu'il soit capable de faire des changements en attaque. Tu parles d'Eric Staal, on peut parler de Corey Perry, etc. Mais là, pour l'instant, on est encore dans la même situation. L'incapacité du Canadien à pouvoir faire des changements, pouvoir procéder. Bon, le Canadien peut procéder, s'il le veut, à son dernier appel et l'utiliser pour rappeler dès aujourd'hui Jake Evans. Il peut le faire. Il a l'espace sous le plafond salarial pour le faire. Il a donc le dernier appel qu'il a en main, un rappel régulier, donc ce qui n'est pas un rappel d'urgence pour combler une blessure, mais un rappel régulier, donc il y en a encore un à sa disposition. Il pourrait choisir de l'utiliser dès maintenant sur Jake Evans. Il pourrait aussi trouver des façons de l'utiliser avec Cole Caulfield. Sauf que je voulais t'amener sur un terrain, sur une piste intéressante parce qu'on s'en est déjà parlé puis tu m'avais fait la réflexion à cet effet-là, que l'acquisition de Eric Gustafsson est en quelque sorte, pourrait être, parce que c'est pas quelque chose qui est définitif, mais c'est vraiment quelque chose que si on assemble les éléments, les morceaux, pourrait avoir rendu la situation particulièrement compliquée chez le Canadien en termes justement de plafond salarial et de rappel. Alors, pourrais-tu un peu nous éclairer par rapport à ça, par rapport à tout ce qui a entouré l'acquisition d'Eric Gustafsson pour ajouter de la profondeur à la ligne bleue du Canadien?
Ben, première chose, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de transactions qui ont eu lieu autour de la date limite des échanges. Puis il y a un rumeur en particulier qui joue. Et je pense qu'on ne connaît pas tout le puzzle, on ne connaît pas tout comment tous les morceaux se sont vraiment mis ensemble pour le casse-tête, mais il me semble qu'avec l'information qu'on a, on est capable de peut-être spéculer d'une certaine façon de ce qui s'est passé à la date limite. Mais première chose, c'est que Eric Gustafson, l'acquisition s'est faite très proche du heure limite, de 3 heures, heure de l'Est, le lundi du date limite des échanges. Avant ça, on a eu Victor Mété qui a été mis au ballottage le dimanche, à midi. Il a été réclamé à midi, lundi, par les sénateurs d'Ottawa. Il a joué la soirée même à Ottawa. On a eu Alexander Romanov, Paul Byron et Xavier Ouellet qui ont été laissés sur l'escouade de réserve ou le taxi squad le dimanche, puis ont été rappelés le lundi après l'heure limite ou la date limite des échanges. Ce qui faisait en sorte que les Canadiens ont utilisé 3 de leurs 4 rappels réguliers dans l'espace de quelques heures du date limite des échanges. La seule raison probable pour ça, ou la seule raison justifiable ou logique pour faire ça, c'était pour maximiser l'argent qui était disponible aux Canadiens à leur limite des transactions. Puis, pas long après leur limite des transactions, la date limite des transactions, on entend dire de plusieurs sources, Elliot Friedman, Darren Dreger, du monde qui sont quand même assez crédibles, que les Canadiens avaient un intérêt d'aller faire l'acquisition de Tony DeAngelo des Rangers, qui a son paquet de problèmes. On n'a pas besoin d'en discuter. C'est un peu... C'est quoi le mot que je cherche? Mais c'est un peu curieux de voir que Marc Bergevin, un gars qui a tout le temps mis le focus puis l'emphase sur le caractère des joueurs, qui soit intéressé à un joueur comme ça. On va laisser ça comme ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait besoin de l'espace pour, effectivement, ajouter un joueur de ce genre-là. Parce que les rapports disaient qu'il allait signer, pour aux alentours de 3 millions pour cette saison. Puis quelque
pour l'année prochaine également.
Pour l'année prochaine également. Alors, mais ouais. pour l'instant, il y avait besoin de cet espace-là. Si tout ça est vrai, il y aurait besoin de créer autant d'espace que possible sous le plafond salarial pour accommoder ce salaire-là. Ce qui expliquerait Mété au ballottage, parce que ça libérait son argent, même si ce n'est pas beaucoup, mais chaque sou comptait, salaire, parce que ça expliquait aussi le fait qu'il y avait les 3 gars qui étaient laissés sur l'escouade de réserve dimanche et pas rappelés jusqu'après la date limite. Finalement, Tony DeAngelo décidé de ne pas résilier à son contrat. Alors, toute la transaction n'a pas eu lieu, puis il me semble que c'est pas... ce serait pas illogique, ou c'est très possible que, dans la situation, étant donné tout ce qui s'est passé auparavant, que Marc Bergevin sentait le besoin d'aller chercher un défenseur avec cette paquet d'habilités-là, un défenseur offensif, Et c'est devenu Eric Gustafson qui, même avec les Flyers qui gardaient la moitié de son salaire, c'est quand même un gars qui coûte 1,5 million sur le plafond, sur une base annuelle, évidemment. Et ça a créé, en quelque sorte, la situation dans laquelle les Canadiens se trouvent aujourd'hui, parce que là, maintenant, avec Price blessé et Primo dans l'alignement, même comme une rappel d'urgence, son salaire, ça compte sur la masse salariale, et ils ont par très peu, ils n'ont pas assez d'espace pour rappeler Cole Caulfield. Alors, même si vous voulez utiliser leur dernier rappel, effectivement, il leur reste un rappel à cause de tout ce qui s'est passé à la date limite. Alors, si vous voulez l'utiliser sur Caulfield, ce qui voudrait dire que Jake Evans restera sur la squad du réserve pendant le reste de la saison, sauf s'il y a une blessure, ils n'ont pas l'espace pour le faire et c'est largement à cause du fait qu'Eric Gustafson est là. Puis ça vaut la peine de demander si Canadien aurait été correct avec John Merrill et Victor Mété au lieu de John Merrill et Eric Gustafson.
Oui, c'est ça. Donc en résumé, là, toute la manœuvre salariale, la manœuvre de descendre des joueurs sur l'escouade de réserve aux alentours de la date limite des transactions aurait été faite en fonction de l'acquisition possible de Tony DeAngelo. Quand cette avenue-là s'est fermée aux Canadiens, les gestes avaient déjà été posés, les conséquences, le Canadien allait les subir nécessairement Et Marc Bergevin s'est donc tourné vers Eric Gustafsson pour aller chercher un joueur, un défenseur de réserve à caractère offensif. C'est pas un défenseur qu'on risque de voir très souvent dans l'alignement, parce que écoute, de la manière dont le Canadien parle de John Merrill depuis le jour 1 de son acquisition, et c'est le cas tous les jours où son nom est mentionné, encore plus depuis son premier match, on le présente comme étant un stabilisateur. C'est un gars qui apporte quelque chose, qui renchérit sur l'identité que le Canadien voulait donner à sa ligne bleue, c'est-à-dire une ligne bleue de plus gros gabarit qui veut s'occuper d'abord et avant tout de faire le travail dans sa zone, de tuer les jeux, de s'assurer que l'équipe passe le moins de temps possible dans son territoire afin de relancer l'attaque. Donc, on n'est pas dans une mentalité de dire on va apporter des joueurs qui transportent la rondelle, qui vont patiner d'un bout à l'autre de la patinoire avec la rondelle, comme Victor Mété était capable de le faire de temps en temps. Et ça fait en sorte que Merrill ajoute à ça. Et je pense que son premier match face aux Oilers d'Edmonton était très convaincant à cet égard-là. Et je pense qu'il a connu une bonne performance et il a été le stabilisateur que le Canadien voulait avoir à droite sur son troisième duo, à la droite d'Alexander Romanov. Et dans ce contexte-là, si tu dis, ben là, aujourd'hui, tu as Brett Kulak qui a passé plusieurs semaines dans un rôle de défenseur top 4 il n'y a pas si longtemps, qui, dans la limite de ses habiletés, a joué quand même du bon hockey, se retrouve septième défenseur.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça va prendre pour que Eric Gustafsson rentre dans l'alignement? Il faudrait vraiment que le Canadien se dise « On a tellement un criant besoin en avantage numérique, on a besoin d'avoir un gars pour opérer à la pointe de manière plus efficace que les options qu'on a à l'heure actuelle. » Parce qu'autrement, s'il ne joue pas en avantage numérique et le Canadien ne juge pas avoir besoin de cette arme-là sur l'attaque à 5, c'est pas à égalité numérique que ce gars-là va offrir du meilleur rendement que Brett Kulak au Canadien. Donc, est-ce qu'on aurait fait toute cette acquisition-là, ajouté 1,5 million de salaire, on aurait mis trois joueurs sur l'escouade de réserve et se menotter les mains du même coup pour finalement se ramasser avec un gars qu'on n'utilisera pas beaucoup? Je comprends que les décisions ont été prises au meilleur, tu sais, sous l'impulsion du moment, au meilleur de leur connaissance, puis avec la pression et avec l'information qu'ils avaient à ce moment-là. Mais a posteriori, tu te dis, ben, tout ça pour ça, c'était peut-être pas ce qu'il fallait ou c'était peut-être pas ce qui était nécessaire.
Non, et c'est ça. Je pense que, tu sais, au poker, on a un terme qui s'appelle pot committed, où t'as déjà mis tellement d'argent sur la table que même si tes cartes sont pas si bons que ça, tu te sens obligé de continuer à investir pour dans la chance que tu vas gagner parce que t'en as déjà investi tellement. Alors, dans ce sens-là, étant donné que Mété était déjà perdu au ballottage, que t'étais déjà engagé à utiliser trois de tes quatre appels le soir même, peut-être que Marc Bergevin sentait que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour avoir payé tout ce prix-là, en plus du choix de septième ronde ou whatever qu'il a payé pour Gustafsson, c'était rien. Mais c'est vraiment les autres aspects qui a coûté cher. Puis il faut être clair, ça c'est notre théorie. Là. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait exactement c'était quoi la motivation, mais il me semble quand même assez évident que il y avait un plan en place, il fallait faire des choses pour que ce plan-là se concrétise. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Puis Gustafsson représentait un plan B, il me semble assez logique de spéculer là-dessus ou de prendre toute l'information qui est disponible et de se rendre à cette conclusion-là. On verra, ça se peut possiblement que, rendu en série, il va avoir assez de blessures. C'est très commun de voir une équipe utiliser 8-9 défenseurs pendant une run en série. Alors, c'est possible que Gustafsson va être utile à un moment donné. Mais en ce moment, c'est clair qu'il est derrière Brett Kulak, il est derrière John Merrill. Ils ont 7 défenseurs avec lesquels ils se sentent confortables. Et Gustafsson, c'est quelqu'un, tu sais, Dominique Ducharme a déjà évoqué la possibilité d'aller avec 11 attaquants et 7 défenseurs pour le faire rentrer dans la série, dans l'alignement, je veux dire. Et c'est sûr qu'il voudrait voir ce qu'il peut faire, parce que à une époque pas si lointaine, c'était un gars qui a compté 60 points pour les Blackhawks de Chicago. Je pense pas qu'il y ait aucune chance qu'il va le faire encore, parce qu'il l'a jamais fait de sa carrière, ni en Suède, ni dans les mineurs, ni en junior, jamais. Il n'a jamais produit à ce niveau-là, sauf cette année-là avec Chicago. Mais c'est quand même un gars qui a des habiletés. Il a lancé qui est très dangereux. C'est un gars qui peut marquer des buts avec des lancers de la pointe. Alors, ce serait intéressant de le voir comment ils vont l'insérer. Puis aussi le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de flexibilité en termes d'amener un attaquant, comme on a déjà suggéré. Ça serait une façon de donner une opportunité de laisser un Staal ou un Perry ou un Drouin ou qui que ce soit, leur donner une soirée off en insérant Gustafsson comme septième défenseur, puis aller de même. Ça, c'est aussi, ça ouais, aussi, c'est aussi c'est... une possibilité. Là.
Ouais, c'est pas bête parce que dans le fond, je sais que les coachs en général, à part John Cooper, je pense qu'il n'y a personne dans la Ligue nationale et Guy Boucher qui aime avoir recours à 7 défenseurs, 11 attaquants. Sauf que dans la situation actuelle, justement, avec certains vétérans qui pourraient bénéficier d'une soirée de repos et un septième défenseur qui a tout le profil d'un spécialiste que tu peux vraiment dont tu peux vraiment limiter l'utilisation à force égale, puis dire, ben, on va vraiment avoir recours à lui sur la première unité d'avantage numérique. D'une certaine manière, c'est un petit peu... le Canadien pourra en faire une utilisation semblable à ce qu'elle avait fait en 2010 avec Marc-André Bergeron. Tu sais, l'époque, il y a eu des moments où le Canadien avait joué à 7 défenseurs. Marc-André Bergeron ne jouait pas beaucoup, mais dès qu'il y avait un avantage numérique, il était là, tu sais. Et à tout prendre, peut-être que d'avoir...
Il a marqué des joueurs importants, là.
Exact. Alors, peut-être que d'avoir un défenseur qui joue à la ligne bleue en avantage numérique, puis que tu utilises 8-9 minutes dans le match, ben peut-être qu'un soir donné, ça peut être utile en cours de route dans les 11 matchs ou 12 matchs qui restent aux Canadiens. Ça peut être plus utile que d'avoir un joueur de quatrième trio dont tu es obligé de limiter l'utilisation.
Mm-hmm. Ouais. Mais écoute, on va. Il y a une autre possibilité, il y a une autre complication que Gustafsson a causée pour le Canadien. On va en parler après cette petite pause.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, ben, re-bienvenue. Et comment parler, effectivement? Tu sais, Eric Gustafsson, le 1,5 million qui prend sur la masse salariale du Canadien, ou qui prend, en fait, de l'espace libéré par la blessure de Brendan Gallagher, et la blessure à Carey Price qui force Primo d'être dans l'alignement, tu sais, lie les mains un peu du Canadien en termes de la possibilité de rappeler Cole Caulfield au niveau de la masse salariale. Une possibilité qui existe, qui inclura pas pourrait éviter la décision qui serait très difficile et en fait qui prendra pas, si on est bien honnête, d'envoyer Paul Byron sur l'escouade de réserve, libérer l'espace de cette façon-là, puis rappeler Cole Caulfield comme dernier appel. Mais une autre possibilité, ça serait que Kane Primeau, au lieu que ça soit lui qui est le gardien auxiliaire, que ça devient Charlie Lindgren qui est le gardien auxiliaire de Jake Allen pendant la blessure de Carey Price. La différence entre les deux en termes de salaire, c'est 200 000, même pas. En fait, c'est 130 000, quelque chose comme ça. Mais cet espace-là suffirait pour rentrer Caulfield dans l'alignement en dessous du plafond salarial, sauf que en faisant ça, le Canadien utilisera leur dernier appel, mais au moins il y aura un attaquant de plus, un attaquant d'extra qui leur permettrait de jouer un peu avec l'alignement de temps en temps. Mais plus que ça, ça leur forcerait de garder Lindgren comme le gardien auxiliaire de Jake Allen. Puis ça présente la possibilité que Lindgren comme joue dans un match avec le Canadien. Puis ça, il faut y penser là, avant de décider de faire ça. Mais il y a un chemin, un cheminement, il y a une façon de rentrer Caulfield dans l'alignement, mais ça prendrait ça. Puis je suis pas certain si les Canadiens seront capables de faire ça.
Non, ben écoute, d'une part, je pense que le niveau de confiance du Canadien envers Charlie Lindgren avoisine le 0 degré Kelvin. Là. Uh-huh. Et par ailleurs, surtout, je pense qu'il est à peu près temps que le Canadien voit ce que Kaden Primo est capable de donner à l'échelle de la Ligue nationale. On a écrit là-dessus dans notre calepin la semaine dernière. À l'effet que, tu sais, Jake Allen, en ce moment, a une grosse charge de travail. Il est appelé à prendre les bouchées doubles en l'absence de Carey Price. Sauf qu'il est fort possible que le Canadien perde Jake Allen au repêchage d'expansion. Et si c'est le cas, si ça se produit, Kaden Primo, selon toute vraisemblance, deviendrait l'adjoint de Carey Price la saison prochaine. Et je pense que, ne serait-ce que pour cette raison-là, ce serait important que le Canadien a une idée de là où est rendu Primo dans son développement. Est-ce qu'il est loin d'être un gardien capable d'assumer 25-30 départs par saison dans la Ligue nationale? Parce que tu ne peux pas nécessairement dire le parachute, il a été le gardien dans la Ligue américaine. On a été très, très hésitant à l'égard de l'envoyer dans l'action cette saison. Mais l'année prochaine, non, ça va être beau. Il va être capable de jouer 30 matchs dans la Ligue nationale. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Fait que pour cette raison-là, là, selon toute vraisemblance, Primo va jouer l'un des matchs face aux Flames de Calgary. Là, c'est clair, c'est entendu. Cela étant dit, il est temps que ça se produise. Et pour cette raison-là, ça m'apparaît d'autant plus louche et improbable que le Canadien se dit « on va utiliser cette entourloupette-là avec Charlie Lindgren pour pouvoir... » profiter du dernier appel puis de rappeler Cole Caulfield parce qu'il a besoin de savoir ce qu'il a en Kaden Primo et de savoir s'il peut être l'homme de la situation la saison prochaine si jamais le Canadien perd Jake Allen.
Oui, dans le fond, je suis entièrement d'accord, mais c'est l'autre chose qui est important là-dedans, c'est que il ne peut pas se mettre dans une position où Charlie Lindgren devient par défaut, le gardien partant de l'équipe. Là, s'il y a une blessure à Jake Allen, s'il y a une blessure à Jake Allen, il pourrait appeler Kaden Primo en urgence. Mais encore là, ça devient... La situation salariale serait honnêtement trop compliquée pour qu'on puisse l'expliquer ou même le comprendre en ce moment, si jamais ça arrive. Mais c'est ça, c'est...
Oui, mais les Canadiens seraient surtout dans le trouble de ne plus avoir Price et Allen. Ramenons ça à la base, là. Oublions les questions salariales, etc., puis de rappel, puis de...
Les Canadiens
n'auraient pas ces deux goalers.
Non, c'est ça, mais en termes d'avoir Lindgren comme auxiliaire, ça serait seulement un risque dans le sens où si Allen ne jouait pas bien ou si Allen se blesse pendant le match où il s'est blessé, c'est Lindgren qui doit aller garder les buts. Mais après ça, j'imagine qu'il y aurait une façon de rappeler Primo si jamais ils ont besoin. Mais peu importe. C'est pas très probable. Puis honnêtement, c'est difficile de voir comment ils vont faire pour que Caulfield soit rappelé avant que Price retourne de sa blessure. C'est vraiment, ça revient à ça. Alors, on verra, mais il faut qu'il joue. Puis le Canadien, il revient à Montréal mardi, sinon lundi soir après le match. Mais tel Laval, ils ont des matchs de prévu cette semaine-là. Si Caulfield, s'ils ne sont pas capables de le rappeler puis de faire jouer avec le Canadien, c'est primordial qu'il l'envoie à Laval puis qu'il joue là-bas. Là. C'est pas la fin du monde qu'il a manqué quelques matchs de Laval, mais il faut qu'il joue là, puis il faut qu'il soit évalué, puis il faut qu'il voit qu'est-ce qu'ils ont avec lui. C'est vrai qu'il a joué deux matchs, je pense qu'il a joué très bien dans les deux matchs. Ça aurait été le fun de le voir avec le Canadien, je pense qu'il aurait pu l'utiliser, il en a besoin. Mais évidemment, toute cette affaire-là aux dates limites des échanges a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de le faire. Puis honnêtement, c'est difficile à regarder la situation puis de ne pas penser que les Canadiens ont fait plus qu'il était nécessaire à date limite. Et ils se sont liés les mains inutilement avec tout ce qui s'est passé lundi et dimanche, en fait, avant la date limite. Mais il faut qu'ils vivent avec les conséquences maintenant. Puis une des conséquences, c'est le fait que Cole Caulfield doit regarder des estrades puis, euh, puis jaser avec Brendan Gallagher pendant le match.
Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est sûr que dans tout ça, Dominique Ducharme n'est pas dans une situation idéale parce que lui, tu sais, il y a des éléments qu'il ne peut pas faire. Tu sais, changer des joueurs, essayer d'en motiver certains en les laissant de côté ou en gérant l'utilisation de ces gars différemment en fonction d'avoir un personnel varié, ben il y a, en ce moment, il y a clairement des limites à ce niveau-là. Mais Ducharme est quand même... Il a l'équipe qu'il a. Il a une équipe à toute fin pratique identique à celle que Claude Julien avait auparavant. Et ben, force est d'admettre que les résultats, depuis qu'il est en poste, nous laissent sur notre faim. C'est pas... Je serais curieux de t'entendre à savoir dans quelle mesure est-ce que les changements qu'il a apportés ont vraiment apporté les résultats espérés. Est-ce que c'est ça? Quelle part revient à ses propres décisions en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'il a une responsabilité significative dans le fait que le Canadien, depuis les 10 premiers matchs de la saison, est grosso modo une équipe de 500? Bref, est-ce que les critiques dont il fait l'objet de la part de nombreux partisans sont méritées?
Ben écoute, quand tu te mets à perdre, comme les Canadiens se sont mis à perdre, oui, c'est ça l'entraîneur-chef dans la Ligue nationale, quand tu perds 5 matchs sur 7 en temps réglementaire ou 7 matchs sur 10, ce qui était le cas avant la victoire à Edmonton l'autre soir, c'est clair que tu mérites de la critique. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, puis lui, Dominique Ducharme le comprend. Là. Moi, où je trouve que les critiques sont peut-être pas mérité dans le sens où il y a du monde qui se demande si c'est le bon entraîneur pour la situation ou pour cette équipe-là. Et basé sur tout ce qu'on a entendu de ces joueurs, pendant beaucoup de choses que Dominique Ducharme nous a expliquées sur sa philosophie, sa façon de faire, ses théories sur la communication, moi, je pense que c'est un gars que, tu sais, il y a les joueurs dans cette chambre-là, les joueurs dans le vestiaire du Canadien croient en ces théories-là, en ces philosophies-là, parce que Dominique Ducharme a été capable de bien les communiquer à eux et non seulement communiquer ce qu'il veut qu'il fasse, mais pourquoi il veut qu'il fait ces choses-là. Puis c'est pourquoi il veut que l'équipe joue de la façon que lui, il veut qu'il joue. Et je pense que il y a un vrai partenariat qui a été établi entre les joueurs et le personnel d'entraîneur au complet. Tu sais, j'inclus Alexander Burroughs là-dedans. Mais il me semble que la culture dans cette relation-là entre entraîneur et joueur a changé beaucoup avec Dominique Ducharme qui est arrivé. C'est un peu plus moderne. Tu sais, Claude Julien, c'est un très bon entraîneur, là, puis je veux pas le critiquer. C'est pas une critique, en fait, ce que je suis sur le point de dire, mais toujours, il voyait ça comme il y a nous, les entraîneurs, et eux, les joueurs. On l'a entendu dire ça souvent. Une fois, en particulier à Boston, là, où il était comme... Oui. Nous, on croit, il faudrait demander à eux autres s'ils croient aussi. Là. C'était vraiment frappant à quel point c'est nous et eux. Mais il y avait comme une séparation. Et avec Dominique Ducharme, c'est difficile de ne pas avoir l'impression que c'est une équipe. Tout le monde fait partie de la même équipe. Puis même l'autre jour, en fait, jeudi, je pense qu'il a probablement vu un peu comment ses commentaires concernant toute la situation avec les rappels a été interprété par les médias, par moi, entre autres. Qu'il y avait un certain niveau de frustration qui n'était pas capable de rappeler un attaquant s'il le voulait, que c'était comme une façon de dire que oh, le management a fait ça, puis là, mes mains sont liées, puis c'est plate, ce qui est vrai. Mais il a pris le soin de dire que, je dis que management, tout le monde, Marc Bergevin, toute son équipe, les entraîneurs, moi et mon équipe, les joueurs, sont tous ensemble. On est tous ensemble, on forme toute une équipe, puis on va gagner, on va perdre ensemble. Et il me semble que c'est vraiment l'environnement qu'il a essayé de créer avec cette équipe-là. On verra si ça va porter fruit, mais je trouve que beaucoup des ajustements tactiques qu'il a fait étaient mérités et étaient justifiables. Les changements de personnel aussi. Mais là, on va le voir. Là. Honnêtement, les prochains, tu sais, les prochaines dizaines de matchs, là, c'est vraiment... Ça, je pense pas que ce serait trop exagéré de dire que Dominique Ducharme est en train de coacher pour son poste. Là, comme,
ouais.
Parce que c'est évident à mes yeux.
Moi, la chose qui me rassure en quelque sorte, c'est que tu sais souvent, les entraîneurs recrues qui arrivent à Montréal, qui là, le premier boulot d'entraîneur-chef, c'est avec le Canadien. C'est un travail qui vient avec énormément de pression. Puis des fois, tu peux avoir le sentiment que c'est trop pour eux. C'est l'impression qui était sortie à l'époque du premier passage de Michel Therrien, de Claude Julien également, où est-ce que la pression les rend extrêmement nerveux, les rend à fleur de peau, et fait en sorte qu'à un moment donné, la situation devient plus difficile à gérer pour eux. Et ce qui me frappe en voyant Dominique Ducharme aller, c'est à quel point il est bien dans sa peau, à quel point il a l'air d'avoir du sang-froid et qu'il est à l'aise avec les décisions qu'il prend et avec la façon dont il va les exprimer. Écoute, hier, il y a un journaliste qui lui a demandé à propos de la tenue de son équipe face aux Oilers d'Edmonton, est-ce que t'as été impressionné par la façon qu'ils ont joué face aux Oilers? Puis il a dit, non, j'ai pas été impressionné par la façon qu'on a joué. Hein? J'ai pas été impressionné parce que c'est de la façon dont je m'attends à ce qu'ils jouent. Donc, c'est comme s'il se refuse à leur envoyer des fleurs de manière... les opportunités de dire « Ah, ben je vais aller flatter dans le sens du poil à la première occasion. » Ils ont fait ce que je leur ai demandé. Formidable. Mais maintenant, mes joueurs doivent savoir que c'est à ça que je m'attends d'eux soir après soir.
Ouais, c'est alors, ça le standard.
C'est le standard qu'on veut établir. Donc, je leur donnerai pas des collants dans leur cahier parce qu'ils ont suivi le standard là, pour la première fois. On leur donnera des étoiles dans leur cahier le jour où ils l'auront fait plusieurs matchs de suite, puis on s'en réjouira à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a une rigueur, puis ça prend... Il faut que tu te sentes quand même assez bien campé dans ton poste, puis assez en contrôle de ta situation pour te permettre de parler de cette manière-là face à une équipe qui a énormément de vétérans, des gars qui sont... qui sont pas beaucoup plus jeunes que toi dans certains cas. Mm-hmm. Alors, tu sais, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'une simple réponse comme celle-là nous donne un petit aperçu de sa personnalité, de son approche par rapport à son poste. Puis en même temps, c'est pas arrogant, c'est pas « je débarque, je suis le jeune coach cocky, puis je vais vous montrer c'est qui le boss ». Non, non, c'est pas du tout ça. Là. C'est strictement d'avoir un entraîneur qui sait où il s'en va. Et dans sa façon de parler, il est toujours méthodique, il est réfléchi. Puis je sais que je vois des commentaires passer de fans sur les médias sociaux qui disent « ah, ben là, il est endormant, il est plate, il prend trop son temps. » Mais c'est un gars qui ne parle pas pour rien dire, qui veut être toujours certain de passer le bon message. Et ça, je pense que c'est important non seulement dans ses rapports avec les médias, mais surtout auprès de ses joueurs. Parce que le message qu'il doit passer, la manière de le passer doit être différente de Claude Julien. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Marc Bergevin l'a amené là parce que il avait besoin que le message soit transmis de manière différente. Et aussi parce que ce message-là a besoin d'être compris au plus tôt, autant au niveau des attentes que des aspects techniques du jeu. Et à ce moment-là, je pense, c'est sûr qu'on peut se dire, comment ça se fait que la sauce prend du temps à prendre? Peut-être, mais je ne désespère pas de voir le Canadien accéder à un autre niveau sous la tutelle de Dominique Ducharme.
Non. S'il y a un mot que j'utilisais pour décrire sa façon de parler, là, c'est que le gars, il est précis.
Ouais.
Quand il parle des situations spécifiques. Il est capable de... Alors, s'il fait ça avec nous, étant donné qu'il ne veut pas tout nous dire, il peut pas tout nous dire, je dois imaginer à quel point il est précis avec les joueurs. Là. Puis je pense que les joueurs d'aujourd'hui apprécient cette façon-là où quelque chose est expliqué, non seulement le quoi, mais le pourquoi. Et, tu sais, c'est pas une commande, c'est pas comme, OK, il faut que tu fais ça dans cette situation-là, c'est que j'aimerais ça que tu fais ça dans cette situation-là. Ici, c'est les pourquoi, parce que ça donne une option ici, ici et ici. C'est le nombre de fois que le Dominique Ducharme parle d'options. Ouais. Je pense qu'il donne beaucoup de pouvoir aux joueurs de prendre des décisions pour eux-mêmes. T'sais, c'est pas un système qui, c'est pas un système tel quel. C'est une série de recommandations. C'est une série de suggestions. C'est une philosophie, dans le fond, plutôt qu'un système. Alors, dans chaque situation, chaque joueur a plusieurs options. C'est pour ça qu'on voit, avant les mises en jeu, en zone offensive ou défensive, souvent les joueurs vont se mettre ensemble puis parler un peu, parce que c'est à eux de décider, après avoir vu comment l'équipe adverse se positionne pour la mise en jeu, c'est à eux de décider quelle option ils prennent sur ce mise en jeu-là. Ce qu'on ne voyait pas avant avec Claude Julien, ça, les petits huddles qu'on voit avant les face-off, c'est arrivé très rarement avant, mais c'est juste un exemple de façon que Ducharme a mis le pouvoir décisionnel dans les mains de ses joueurs. Et ce que Ducharme et ses entraîneurs fournissent, c'est un paquet d'options. C'est un paquet de solutions possibles dans une certaine situation. Puis il donne le pouvoir aux joueurs de décider quelle option c'est le meilleur dans la situation actuelle. Alors, je pense que les joueurs apprécient ça. On verra ce que ça donne.
C'est un petit peu, je vais trahir mon âge, mais c'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, finalement. Tu sais.
Ouais, effectivement, c'est ça. écoute, juste avant de terminer, on voulait faire une minute de patrimoine. On n'en a pas fait depuis un petit bout. Et il me semble que cette semaine, il y a un sujet en particulier. Quand le minute du patrimoine, c'est quand Marc-Antoine et moi, on fait un petit survol de la division canadienne, puis on, d'habitude, chacun, on choisit une équipe, puis on parle d'un enjeu de cette équipe-là qui, par rapport au comment ça pourrait impacter, avoir un impact sur le Canadien. Mais cette semaine, on va en parler d'une équipe qui est l'équipe que le Canadien va fort probablement affronter en première ronde des séries, puis c'est les Maple Leafs de Toronto.
Oui, exact. Là, c'est... Écoute, autant cette équipe-là est en... survole la division Nord, puis tout est beau, etc. En même temps, il y a une part d'incertitude. T'sais, c'est une équipe qui... Je ne sais pas si c'est l'équipe en tant que telle ou la ville de Toronto qui manque de confiance, mais je sens que tout est toujours fragile avec les Maple Leafs, même dans les plus grands succès. Et là, récemment, les Maple Leafs ont traversé leur deuxième séquence difficile dans la saison. On se rappellera que plus tôt dans l'année, ils avaient eu une passe difficile là, où ils avaient perdu 6 matchs sur une possibilité de 7. Et là, avant de l'emporter contre les Jets de Winnipeg hier, ils ont passé 5 matchs sans remporter la victoire. Et un de ces matchs-là, on y a fait référence au début de l'émission, c'était face aux Canucks de Vancouver qui revenaient d'une longue période d'inactivité. Alors là, dans ce temps-là, il y a une remise en question qui se fait, puis là, l'angoisse profonde, si on creuse la bébite là, le plus loin possible, c'est toujours d'en revenir au point de dire, est-ce que les Maple Leafs ont ce qu'il faut pour au moins, à tout le moins, gagner une ronde de séries éliminatoires? Et à l'heure actuelle, la plus grosse crainte, je pense, c'est devant le filet. Il y a... Frederick Anderson est sur la touche depuis plusieurs semaines, et lui, déjà, en temps normal, en santé... Il n'inspirait pas la plus grande confiance, entre autres en séries éliminatoires. C'est un gars qui c'est un cheval, là. C'est un gars qui donnait beaucoup de minutes, beaucoup de départs, mais une fois rendu en séries éliminatoires, est-ce qu'il a réussi à élever vraiment son niveau de jeu? C'était loin d'être une certitude. Là, s'il revient dans l'action, il reviendrait à froid. Et là, dans l'intervalle, Jack Campbell a eu une séquence phénoménale pour le remplacer. Il a ralenti un petit peu. Il a gagné hier face aux Jets, mais il est revenu sur Terre en quelque sorte et son adjoint David Rittich, qui a été acquis à la date limite des transactions jusqu'à maintenant, ça ne va pas bien pour lui. Donc, il y a vraiment une incertitude devant le filet pour les Maple Leafs. Leur avantage numérique continue de ne pas fonctionner. Bon, ils ont gagné, ils ont marqué un but dans leurs deux derniers matchs face aux Canucks, mais quand même, c'est une équipe qui, depuis, je dirais grosso modo, depuis le début du mois de mars, piétine là, dans les bas-fonds de la Ligue nationale en avantage numérique. C'est pas normal. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir si cette équipe-là, qui est pourtant la favorite dans la division Nord, qui va terminer première de cette division, selon toute vraisemblance, va quand même trouver le momentum nécessaire pour battre son adversaire, qui, selon toute vraisemblance, va être le Canadien.
Oui, bien, en fait, ce qui est drôle là-dedans, bien, peut-être pas drôle pour les Maple Leafs, mais ce qui avantagerait le Canadien, puis c'est effectivement cette situation devant le filet. On a vu l'été passé à quel point la présence de Carey Price peut jouer dans la tête de ses adversaires. Je pense que les Penguins de Pittsburgh n'étaient pas du tout contents de la situation après la saison qu'ils ont connue l'année passée, d'être obligés d'affronter une équipe qui avait Carey Price comme gardien en ronde qualificative pour les séries, même pas les séries. Puis effectivement, les Penguins finalement ne se sont pas rendus en série et c'est grandement à cause de Carey Price. La même situation pourrait se jouer pour les Maple Leafs. Écoute, on comprend très bien que Carey Price n'a pas eu une saison très constante. On comprend aussi qu'il est en ce moment qu'il est blessé. Puis, comme on a parlé tantôt, la possibilité existe qu'il ne serait pas capable de jouer avant les séries. C'est possible. On ne sait pas avec une commotion, mais c'est toujours possible. Mais si on prend pour acquis qu'il va revenir avant les séries, puis qu'il serait suffisamment préparé en termes d'avoir joué des matchs avant les séries. Carey Price demeure en série la force du Canadien, puis dans une situation où la plus grande faiblesse des Maple Leafs serait devant le filet. C'est quelque chose d'un enjeu énorme dans une potentielle série, la première série entre le Canadien et les Maple Leafs depuis 79, si je ne me trompe pas. Alors, c'est comme... Et je parlais à un dépisteur l'autre jour et je voulais lui parler du fait que... j'étais au match, puis je voulais lui parler du fait que... Quand tu bâtis une équipe pour les séries, des fois, ces équipes-là vont avoir de la misère en saison régulière quand le style de jeu n'est pas exactement la même que le style pour lequel tu as bâti ton équipe. Mmh. Et je voyais le Canadien un peu comme ça. Dans, à l'époque, dans la situation actuelle. Mais la première chose que le dépisteur a dit, le premier nom qu'il a évoqué, c'était pas Shea Weber, c'était pas Joel Edmondson, c'était pas Ben Chiarot, c'est les gars duquel moi je parlais surtout. Là. Le premier nom qu'il a évoqué, c'était Carey Price. Puis il dit, tu sais, avec Carey Price en série, là, il n'y a aucun doute que le vrai Carey Price, le bon Carey Price va se présenter à série parce qu'il le fait à chaque fois. Et il n'y a pas tort dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a du monde qui a des doutes sur Carey Price, mais si tu regardes sa fiche en série, c'est souvent pas à cause de lui que les Canadiens n'ont pas avancé en série. En fait, c'est à cause de lui que les Canadiens... Ouais, c'est ça. C'est une question de bout pour, puis c'est à cause de lui que ces séries-là se sont prolongées à 6 ou 7 matchs au lieu de terminer après 4 matchs. Là. Alors... mais c'était intéressant pour moi que le premier nom qu'a évoqué ce dépisteur professionnel-là, c'était le nom de Carey Price. Alors, Et c'est sûr qu'à Toronto, qui n'a pas remporté une série depuis 2004, pas une série en séries éliminatoires depuis 2004, que cet enjeu-là va jouer très gros. Et la discussion autour de l'utilisation des gardiens, si ça va être Frederick Anderson ou Jack Campbell en série... s'il connaît un mauvais match, comment ça va éclater comme une discussion autour de l'équipe rendue là. C'est intéressant comme enjeu pour cette équipe-là qui, à part devant le filet, semble être très bien bâtie. Puis l'ajout de Nick Foligno, seulement ça rajoute à tout ce que les Maple Leafs ont en termes d'atouts contre les Canadiens, qui devrait leur permettre de les battre dans une série, en théorie. Mais je pense que la robustesse de la défensive du Canadien va leur donner un peu de problème. Mais surtout, le match-up devant le filet, si on prend pour acquis que ça va être Carey Price contre Frederick Anderson, c'est une faiblesse. C'est un peu comme le Death Star en Star Wars. Là. C'est vraiment comme... il y a cette faiblesse-là que le Canadien peut identifier. Là, et ça pourrait leur permettre de remporter une série, à mon avis.
Oui, absolument. Je dois dire, par exemple, avant qu'on conclue à propos des Maple Leafs, que je suis un petit peu envieux de leur acquisition de Nick Foligno. Je trouve que parmi les bons coups de la date limite des transactions, sont allés chercher un joueur vraiment solide pour les séries éliminatoires, solide pour le top 9. Et ça tombe particulièrement bien pour eux qu'ils soient allés le chercher parce que là, la blessure de Zach Hyman fait en sorte qu'ils avaient un besoin immédiat à combler. Et écoute, c'est lui qui s'est retrouvé à la gauche de Matthews et Marner hier. Donc, c'est un gars qui pourrait vraiment se promener n'importe où au sein de leur formation puis être un gars très utile pour eux en séries éliminatoires. Ça a été, à mon avis, une belle acquisition. Écoutez, tout le monde, d'abord, merci à tous d'avoir été là pour cet autre épisode du Super Athlétique. Je voulais vous rappeler en terminant que si vous n'êtes pas encore abonné au Super Athlétique, vous pouvez le faire en vous rendant, en profitant d'un rabais en tant qu'auditeur du Super Athlétique. Vous pouvez vous abonner à athletic.com et lire nos articles à longueur de semaine, ceux d'Arpin, les miens, ceux de tous nos collègues à travers la Ligue nationale. Et vous pouvez le faire en profitant d'un rabais en vous rendant au athletic.com/supportathletic. Donc, c'est athletic.com/supportathletic. Ça va vous donner un rabais sur votre première année d'abonnement. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Ça vaut vraiment la peine. Puis surtout à l'approche des séries, là, savoir comprendre en un seul coup d'œil, au même endroit, tout ce qui se passe, avoir le pouls de tout ce qui se passe dans toutes les équipes de la Ligue, c'est le rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, je pense que ça vaut vraiment la peine. Merci Arpin pour ta contribution, toujours apprécié. Puis on va se retrouver quoi la semaine prochaine pour The Athletic Support.
Oui, effectivement. Alors, bonne semaine à tout le monde. Puis je pense que rendu à la semaine prochaine, ça va être clair d'une façon ou une autre à quoi s'attendre pour la fin de la saison en termes de la saison régulière du Canadien. Toute cette affaire-là devrait être clarifiée. Il n'y aura pas question des Canucks et Flames ou il serait juste question des Canucks et Flames rendu là. Alors, cette semaine-là qui s'en vient devrait être pas mal déterminant pour le Canadien puis leur qualification pour les séries.
Au revoir tout le monde. Thank you.